Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Il était une fois l'histoire de votre émission préférée, à savoir Popopop. Il était également une fois l'histoire de votre serviteur qui commença à avoir des poches sous les yeux, de niveau 12 sur l'échelle de Droupy ou de François Fillon, c'est selon, et qui décida de prendre quelques jours de repos. Il était surtout une fois l'histoire de ce serviteur qui, ne souhaitant pas vous abandonner, conçut de manière artisanale dans sa cave toute une collection d'émissions à écouter ou à réécouter toute la semaine avec ce que mon fromager appelle le cœur de la meule de la pop culture, ou la crème de la crème, comme il me dit, en me servant une louche de crème fraîche made in Normandie. Ça fait envie. Bref, avec ce que nous comptons de mieux sur notre chère planète pop. Il était donc une fois l'histoire de cette semaine. Mais pourquoi dit-il « il était une fois » au lieu d'il était une fois ? Eh bien, tout simplement parce que nous commençons cette semaine avec une reine, Marina Foïs, et nous poursuivrons l'histoire avec un prince, Louis Garrel. Alors asseyez-vous en tailleur autour de moi et venez écouter les histoires d'oncle Antoine. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a envie de vous recevoir dans cette émission, mais vous savez, comme moi, les voix de la promotion sont parfois mystérieuses. Alors aujourd'hui, question promo, on a du grain à moudre. Deux films à l'affiche en même temps, un point commun, ce sont deux bons films, ce qui est une bonne nouvelle. Et je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, je ne suis pas en train de faire mon petit vendeur de bagnole. Okay. Un autre point, alors moins commun, ce sont deux films d'une nature, comment dire, différente. Mais on va attendre Charline pour en parler dans quelques instants. Deux films tournés en 2020 qui attendaient leur tour pour sortir sur les écrans. Préférez lequel d'ailleurs, Barbac ou La Fracture?
Et toi, tu préfères ton papa ou ta maman?
Bah oui, papa ou maman.
Moi, ce que j'aime, c'est l'éclectisme et c'est passer d'un univers à l'autre. Et si on me demandait de choisir, je serais bien dans la merde parce que je pense que les contraires s'attirent et que tout ça met du relief. Moi, j'avais une de mes profs de théâtre qui a été la plus importante pour moi, qui s'appelait Nada Strand. Elle me faisait travailler la tragédie et elle me disait, il faut toujours que tu trouves le rire du tragique et le tragique de la comédie. Donc je pense que après avoir fait Barbac, j'arrive sur le tournage de La Fracture mieux que si j'avais fait Fracture bis juste avant, en fait. Je pense que la vie, elle parachute très facilement les paradoxes dans la vie. C'est ça qui la rend belle. Sa télescope, c'était le mot que je cherchais. Ouais. J'avais mis parachute.
Ou des enclavés, on peut dire aussi.
Mais dans la vie, ça marche tout le temps. C'est ça qui rend les moments rares et tout ça. Donc, dans le travail, ça marche pareil.
Okay. Ouais. Et Marina Foïs, j'attaque toujours Pop Pop par un morceau qui m'évoque l'invité. Et aujourd'hui, vous, Marina, vous me faites penser à Lana Del Rey pour cet art subtil, justement, du détachement. Écoutez-moi ça.
All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder.
Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G.
Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux, bien sûr, qui vient d'arriver de ce pas altier, malgré un début de lumbago.
Oui, ça n'intéresse personne, Antoine.
Mais si, ça intéresse la France entière. Bonjour Charline.
Bonjour.
Et bravo pour cette abnégation.
Au monde, je ne rate ma comédienne préférée, j'en profite pour le dire.
Voilà, ça c'est fait. Deux films au programme aujourd'hui avec Marina Foïs, et on va commencer par La fracture de Catherine Corsini.
Raph et Julie sont en crise, entre elles rien ne va plus, alors que Julie, au bout du banc, il faut dire qu'elle a passé la nuit à se faire agonir de textos fleuris par celle qui partage son lit. Alors que Julie donc se fait la malle, Raph choit assez lamentablement dans la rue et fait plier son coude dans un angle qui n'existe pas. Elle atterrit donc aux urgences, Julie la rejoint. Le service est en totale asphyxie, c'est un soir de manifestation parisienne des Gilets jaunes. Elles y font la rencontre de Yann, manifestant salement blessé, et sont couvées par Kim, une infirmière plus que dévouée. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé n'a rien de fortuite, puisque cette histoire, en partie, c'est celle de Catherine Corsini, votre réalisatrice. En quels termes Marina vous a-t-elle raconté cette nuit si particulière ?
Je ne me souviens plus quand elle me l'a raconté. Elle m'a parlé du projet de manière globale. Moi, ce qui m'a tout de suite intéressée, c'est de faire un biopic. On m'a jamais proposé ni de faire Simone Veil, ni de faire Blondie, rien. Donc là, j'ai eu l'occasion de faire un biopic de quelqu'un qu'on ne connaît pas, puisque c'est sa productrice.
Et vous la connaissiez, vous connaissiez
déjà.
Oui,
je les connais, les deux. Les deux, je les connais dans la vie. On est copines. Enfin, on se connaît depuis très longtemps. On se fréquente. Et je dois dire que
c'est un avantage ou un inconvénient, ça, quand on connaît si bien les gens, d'avoir à jouer leur vie d'un seul coup?
Là, c'était moi, ça, très franchement, ça m'amusait. Moi, j'ai une curiosité maladive, j'aime bien, je pourrais rentrer dans les placards des gens, pourrais mater.
J'aime bien, vous passez anglais.
Hein. Ah, pardon,
je signale à nos auditeurs, mais flics.
Ah, oui. J'aime bien. Non, mais c'est un exercice très amusant. La plupart du temps, on est obligé de combler par notre imagination les trous des scénarios. Là, je pouvais vérifier les questions que je me posais.
Le tour de force du film, c'est qu'il vous tord autant qu'il vous fait rire, comme on dit en météo, alternance de pluie et d'éclaircie. Ce genre de montagne russe, est-ce que ça aide à raconter le chaos? Parce que c'est à ça qu'on assiste en réalité.
Oui, je pense que la force du film aussi, c'est de mettre des visages sur des choses, des réalités désincarnées qu'on nous a mal racontées, vite racontées, balancées à la gueule sur les chaînes d'infos en continu. Et là, tout d'un coup, c'est des histoires, des colères, des rages auxquelles Catherine Corsini donne des visages, et forcément l'incarnation, quand ça passe par l'émotion, évidemment, parce que le rire rassemble et que les larmes, ça fait du bien de rire ou de pleurer ensemble. Je pense que c'est ça la force du cinéma en général, et particulièrement du film. En tout cas, ce qui est clair, quand on voit, moi j'ai vu des projections publiques, ce qui est merveilleux pour nous, c'est que nous on l'a fait sans savoir ce que ça produirait, et les gens rient tout de suite, mais immédiatement, et à la fin du film, c'est pas que le rire ou l'émotion qui est passée, c'est surtout une énergie. C'est un film qui l'énergie passe de l'écran à la salle, et ça c'est merveilleux de voir l'impact direct d'un film sur les gens qui le voient, et ça rappelle la beauté de la salle. Parce que malheureusement, on a dû voir les films beaucoup chez nous.
La fracture de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaille, Aissatou Diallo Sagna et vous, Marina Foïs, ça ressemble à ça.
C'est dans la merde aussi, non ?
Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte.
Tu n'es pas toute seule, d'accord ? Tu fais jamais attention, jamais. C'est plus possible.
Vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde.
Il n'y a plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là ?
On n'en a plus.
Franchement, je vous admire, hein. C'est gentil. Hein. Mais vous savez, moi, je pense que je vais bientôt quitter le service.
Ça va un moment de donner de sa personne tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de ne pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail.
Et tous ces personnages qui se croisent dans le chaos de cette nuit aux urgences ont un point commun, ils sont tous à la poursuite d'un idéal, qu'il soit sentimental ou politique, et ils se fracassent sur le réel. C'est là le point de partage, et je ne sais pas si vous êtes d'accord Marina, mais c'est ce qui manque cruellement à l'époque, non ?
Ah oui, une idéologie, un discours auquel se rattacher un idéal, voire une utopie, clairement. moi j'ai l'impression qu'on en aurait tous besoin. Les personnages du film, ils sont beaux parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas renoncé, pas encore, ou qui peut-être renonceront jamais, soit à l'idéal politique, soit à l'idéal le personnel soignant qui est assez bien représenté. D'abord, dans le film, tous les soignants sont joués par des vrais soignants, ce qui donne, les gestes sont évidemment très vrais, parce que les séries à l'hôpital, on en a vu plein. Mais ce qui est très beau aussi, c'est que c'est pas les grands gestes de la médecine, il n'y a pas d'opération à cœur ouvert, il n'y a pas de gestes héroïques, c'est les gestes du quotidien, qui n'en sont pas moins héroïques. Et c'est très beau de voir l'abnégation de ce personnel soignant. Il se trouve qu'on en a beaucoup entendu parler avec le Covid, même si l'asphyxie de l'hôpital, ça a préexisté au Covid, je pense que c'est devenu un sujet populaire, même si je crois savoir qu'ils n'ont pas obtenu les réponses qu'ils attendaient.
Non, pas encore.
Voilà, pas encore. C'est bien, on rentre en campagne, peut-être question d'en
reparler. C'est le moment où j'y vais.
On voit le geste au quotidien et on voit ces personnes qui ont choisi ces métiers-là. Il y a certainement une part de vocation, peut-être pas pour tous, mais il leur reste un idéal de comment on pratique ce métier. L'égalité, les patients arrivent, on s'en fout de qui ils sont. On va les classer, la hiérarchie, c'est pas une hiérarchie sociale, culturelle, sociale. C'est juste la hiérarchie de la douleur et de la gravité. Il y a une égalité de traitement, c'est beau de voir des gens traités pareil, ça aussi, ça fait du bien de se débarrasser des a priori pour traiter le présent, traiter les gens pour ce qu'ils sont là à l'instant, pas pour d'où ils viennent, pas pour qui ils seront. Ça, c'est quelque chose, en fait, ça remet au cœur des valeurs dont je crois, même si on nous fait croire l'inverse, je crois que c'est de ça dont on a besoin, aussi de se mélanger, de se parler et de s'écouter. Et c'est présenté dans le film comme un idéal, une possibilité, et je ne crois pas quelque chose d'inatteignable, comme un but pas si loin.
Alors, ce qui permet aussi d'entrer dans le film, c'est qu'il est toujours raconté avec la bonne distance, c'est-à-dire pas de manière trop frontale et pas non plus de manière désengagée. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, cette bonne distance ?
Moi, j'avais à prendre en charge ma partie, qui est celle d'un couple au bord de la rupture. Donc, les acteurs, ils n'ont pas à prendre en charge tout le film. Ça, c'est vraiment de la mise en scène. Après, Corsini, elle était dans la merde parce que elle se raconte elle-même. La moindre des politesses, c'est d'avoir de l'humour et de charger ce couple de bobos qui est ultra représentatif du milieu dans lequel il vit et qui va aussi naïvement, parce qu'on pourrait croire que le personnage le plus naïf, c'est le personnage de Pio qui joue donc un gilet jaune. Le personnage de Valéria, il a aussi sa part de naïveté et de méconnaissance de l'autre, en fait. Voilà.
C'est pour elle que le voyage est le plus long, hein, pour le coup. Et alors, c'est aussi, vous le dites, un film sur la résistance au quotidien qui prend différentes formes, que ce soit effectivement par le personnage de Pio Marmaille, qui défend des idéaux, ou par celui de la formidable Aissatou Diallo Sagna, l'infirmière qui refuse de donner les noms des manifestants.
Ouais.
Et votre personnage, vous, a ceci de particulier, c'est qu'il passe de presque simple visiteuse à résistante, elle aussi, à sa manière. La capacité à résister, est-ce que c'est de cette faculté-là aussi dont nous manquons cruellement et qui est l'un des sujets du film?
Je sais pas si en France on en manque, parce que je crois savoir, quand on voyage un peu, les Français, ils sont perçus comme très râleurs et en train de faire la grève tout le temps, ce qui est à double tranchant. Ça veut dire aussi, c'est que ce sont des gens qui sont capables de dire non, qui disent pas oui à tout. Et moi, dans le film, ça me bouleverse le moment où, très rapidement, sans en faire un sort, hein, sans faire un grand discours, sans faire la morale, on me demande de faire ça, non. Moi, j'ai le choix de dire non. Je suis pas obligée d'obéir bêtement. J'ai un cerveau qui marche, j'ai des convictions, j'ai une morale, et je ne l'oublie pas parce que je suis dans l'urgence et je m'y tiens. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et je sais que ça se passe comme ça. Moi, j'ai une sœur qui est médecin et qui a choisi une carrière hospitalière, qui a bossé à Saint-Denis, donc qui a fait beaucoup de médecine, qui soigne des gens qui n'ont pas leurs papiers, tout ça. C'est un engagement physique et politique. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît, j'avoue.
Et sur un plateau de cinéma comme celui de Catherine Corsini, justement, c'est quelque chose que vous retrouvez, cette liberté de mouvement? Parce que je crois comprendre que vous avez pu travailler, improviser, chercher différentes pistes. Quand vous voyez le film, le résultat qui est absolument magnifique, je le redis, vous êtes surprise, étonnée?
Ce qu'on mesure pas complètement, c'est comment elle filme le mouvement. On sent qu'elle essaye de le créer. Ce qui est intéressant avec Corsini, c'est que on fait beaucoup de prises, que les prises durent très longtemps, mais qu'on commence jamais tout à fait au même endroit. C'est-à-dire qu'elle cherche pas un résultat qui préexiste. Et ça, c'est très agréable pour les acteurs. C'est-à-dire qu'on a le droit d'emprunter tous les chemins. On a le droit d'être très très mauvais. Elle nous le dit quand on est très mauvais, mais c'est vrai que il n'y a pas de risque d'être très très bon si on n'est jamais très très mauvais, en fait. Et puis la justesse, tout le monde s'en fout, en fait. Ouais. Et donc c'est un long parcours avant de trouver une scène, mais on a le droit d'emprunter tous les chemins. Mais l'autre chose qui était très intéressante pour moi, surtout pour mon personnage, dont au fond il n'est jamais question, parce que c'est quelqu'un qui regarde, qui réagit beaucoup, c'était de trouver la place dans le groupe, quoi. Comment exister sans qu'il soit question de vous? Et c'était un peu notre travail à tous, de faire exister le mouvement du groupe plus fort que les mouvements individuels. Ça, ça m'a plu beaucoup.
Alors, La Fracture, ça, c'est le premier film de Catherine Corsini. Enfin, c'est pas son premier film, mais c'est le premier film qui sera à l'affiche.
Non, parce qu'elle est âgée, quand même. Non, ça non, se voit pas tant que ça. Elle est beaucoup plus vieille que ce qu'elle paraît. Ah, et je tiens à le dire. Ah, oui.
Ça, c'est un scoop.
Oui,
oui. Catherine Corsini, on vous embrasse très fort. Marina Foïce, changeons d'ambiance, car mercredi prochain arrive également donc Barbac, le nouveau film de Fabrice Eboué. C'est bizarre, on fait le promo le même jour, c'est très très étrange. L'histoire de Sophie et Vincent, un couple de bouchers. Charline, j'en ai un peu plus, je vous le mets quand même, j'imagine. Enfin, je veux dire, résumez-nous l'argument.
Et je vous rappelle que je ne mange pas de viande et j'espère que ce ne sera pas retenu contre moi. Vincent et Sophie sont mariés, bouchers en crise, privés comme professionnels. Tout bascule contre Vincent, quand Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique. Pour faire disparaître le corps, il en fait un jambon. Le problème, si toutefois le meurtre n'en était pas déjà un, c'est que Sophie le vend par mégarde et que le dit jambon fait un véritable tabac. Alors que vont-ils faire? Eh bien, récidiver, bien sûr.
Lucas, quel morceau vous ferait plaisir?
Il est vegan.
Ah, il y a
fait... des choses qui arrivent, non? Ma démarche est personnelle et j'estime que je dois l'imposer à personne. Du coup, ma chérie, je te serre la cuisse comme d'habitude?
Non. Du coup, je mange plus de viande.
Mais puisqu'il te dit que c'est une démarche personnelle...
Ah oui, mais justement, si elle mange de la viande et qu'après elle m'embrasse, c'est comme si j'en mangeais. Donc elle nuit à ma démarche personnelle.
Je te sers des selles, du coup.
Non, il y a une zone de contact énorme avec le poulet, ça va pas être jouable.
Ça nuit à votre démarche personnelle.
C'est ça, voilà, ça vient.
Barbac, le nouveau film de Fabrice Eboué. Alors parlez-moi un peu de ce rôle de jambon à l'hôpital dans cette nuit de folie. Non, qu'est-ce que
c'est
je raconte
pas, non, c'est pas, vous avez...
il existe aussi une bande-annonce beaucoup plus trash et très visuelle. Et Fabrice Eboué a d'ailleurs raconté que la mauvaise bande-annonce avait été diffusée dans un cinéma devant des enfants qui attendaient un dessin animé. Vous pensez que de nouvelles vocations de vegan sont peut-être nées à cette occasion?
Je ne sais pas, mais ils regardent Sweet Games, donc ils peuvent bien voir la bande-annonce de Barbac.
Oui, la série coréenne qui
est
cool. Bon, en même temps, quand on est enfant, c'est bien d'être un peu traumatisé de temps en temps, d'ailleurs.
Je crois qu'il faut.
Il faut.
Moi, c'est comme ça que j'ai élevé les miens, en tout cas, en les traumatisant.
En les traumatisant.
Fallait pas faire ça?
Mais bien sûr qu'il faut faire ça.
Ah, on va avoir des signalements, tous.
Mais vous
on a tous traumatisé les nôtres. On parlait de films sociaux il y a un instant. Alors, celui-là l'est aussi un peu d'une autre manière, dirons-nous, puisque le couple que vous incarnez, c'est aussi une incarnation de David contre Goliath, soit la petite boucherie avec l'amour du produit, du métier, contre la barbaque industrielle aux hormones. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une moralité, mais j'imagine que ça compte.
Oui, c'est l'histoire d'un couple. Enfin, il y a plein d'histoires dans cette histoire-là. Fabrice Eboué dit que c'est une comédie romantique. Il se trouve que c'est une comédie romantique gore, donc il réinvente le genre, ce qui est toujours intéressant. C'est l'histoire d'un couple qui végète sentimentalement. Vous l'avez dit, qui est un peu en bout de course. C'est aussi l'histoire d'un couple un peu humilié. Enfin, la boucherie ne marche plus. Ils ont que des amis plus riches, qui partent plus en vacances. Ça brille tout partout autour, et ça brille plus chez eux. Je pense que l'humiliation sociale, la honte, ça peut nourrir l'amertume, voire la violence. C'est un peu l'histoire de ce couple-là.
Ouais.
Un couple de bouchers qui végète, j'ai bien entendu.
Ah ouais.
Ah, c'est pas mal.
Ouais. Mais en ce moment, j'apprends l'espagnol pour un film que je tourne en espagnol.
Si.
Parce que je manie vachement moins bien la langue française. J'ai dit parachuter au lieu de télescoper. Enfin, vous voyez bien. Je galère avec cette langue qui est pourtant la mienne.
Désenclavé, non?
Désenclavé, ouais.
Un petit côté David contre Goliath et Roméo et Juliette, parce que votre fille dans le film tombe sous le charme d'un suceur de carottes, comme on l'appelle dans le film, un vegan tellement horripilant, tellement radical qu'on rêve d'en faire des carottes râpées, et à travers lui c'est toute une époque de plus en plus radicalisée et tendue qui s'exprime. Comment est-ce que vous faites, vous, Marina Foïce, dans la vie de tous les jours pour rester calme dans ce genre de situation?
Alors, moi, déjà, je suis rarement calme, en fait. Donc, je cherche la modération et la quiétude. À l'heure qu'il est, je l'ai pas encore trouvé. Donc, je suis pas un très bon exemple. Dans le film, le personnage de le gendre, il est évidemment, on a envie de le taper, tout
il
ça.
Mais il
y en
génial.
A aucun. Ouais, il est super. Mais il y en a aucun pour sauver l'autre. Ouais. C'est que des gens affreux. Alors, il y a des personnages affreux, comme ceux incarnés par Virginie Hoc, le couple qui sont atrocement racistes. Eux, il y a rien à racheter. Ils sont que affreux. On n'a pas envie de les comprendre. Le couple des bouchers, ils sont filmés avec un peu plus d'empathie. On peut comprendre le mécanisme de l'amertume. On peut leur trouver des excuses. Mais en vrai, tout le monde s'en prend plein son grade.
Mais vous le disiez, votre personnage est le moteur en fait de ce couple et de ses exactions. Et ce qui est très étrange, c'est qu'on adhère en tant que spectateur à son manque total de morale et d'empathie. En fait, à cause de vous, oui, j'accuse Marina Foïs. On l'aime bien, Sophie. On a envie qu'elle réussisse.
Mais écoutez, c'est pas moi qui ai fait le succès de Faites Entrer l'Accusé, de ces émissions de faits divers. Ouais. Je veux dire, il nous fascine.
Qu'elle consomme goulûment.
Les monstres. Voilà. Ouais. Elle consomme goulûment, ouais, mais elle, c'est pas la seule. Moi-même, le fait divers m'intéresse. Je pense qu'on a tous un appétit. Et je sais pas s'il est sordide ou juste. Mais en fait, les monstres, ils incarnent un truc qui nous fascine, ouais, qui nous révolte, qui nous fait peur, mais qui nous fait. Eux, ils s'autorisent la transgression. Je pense que ça fait partie de la littérature. Elles sont nourries. Enfin, c'est quelque chose qu'on partage, là c'est traité en comédie, mais en vrai, c'est le comment dire, la noirceur humaine, c'est fascinant, non ?
Ah ben oui, c'est fascinant, évidemment que c'est fascinant. Mais Marina, alors là, c'est à l'actrice consciencieuse que je m'adresse. Est-ce que vous avez poussé la conscience professionnelle, justement, jusqu'à goûter du jambon d'Iran ?
Bien sûr, j'ai tué un vegan, bien sûr, et j'ai, évidemment.
Et alors ?
Évidemment, c'est délicieux.
Ceci dit, il faut expliquer le pourquoi les véganes. C'est parce que comme ils sont herbivores, forcément la viande est meilleure.
Oui, c'est l'explication que propose le film. Bon.
Et d'ailleurs, vous le disiez, Fabrice Eboué envisage le film comme une histoire d'amour. Donc son personnage est prêt à tout pour garder intact l'amour de sa femme et sauver son couple. Est-ce que vous l'avez joué très au premier degré, comme dans une comédie romantique ? Est-ce que vous aviez cette intention-là en tête ?
Ah bah oui, mais je pense que la comédie, il faut la jouer très très au premier degré, faut trouver les enjeux de base, faut avoir absolument pas conscience de ce qui est drôle, je crois, sinon on est niqué. Enfin moi j'y arrive pas en tout cas. J'arrive pas à être dedans et dehors. Donc oui, je pense aux enjeux vitaux de cette femme qui veut reconquérir le monde en fait, qu'on peut plus, elle s'emmerde, elle s'ennuie.
Donc à tous les fans de Couteau de Notting Hill, c'est pas tout à fait pareil. Je vais préciser quand même.
Dans Barbac, Marina, vous êtes donc Sophie, la femme de Vincent, qui est fascinée, le mot est faible, par les faits divers. C'est donc pas tout à fait un rôle de composition. Et attendez, votre réponse va être analysée, celle que vous allez me faire. Tiens, quand je vous dis, est-ce que vous aimez les faits divers, Marina, et que vous me dites...
Oui, j'adore. Ça m'intéresse beaucoup.
Oui, développer un tout petit peu.
J'ai beaucoup lu, j'ai même beaucoup traîné aux assises moi, parce que. Faut que j'ai continué à parler.
Non, c'est très bien.
Et j'ai été amie, je suis encore amie, mais sauf qu'on se voit plus, avec Jean-François Abgral, qui a permis l'arrestation de Francis Holm quand même, qui a permis de découvrir sa culpabilité dans plusieurs crimes.
Quelques éléments.
Qui a écrit un livre dessus.
Et quelques éléments de réponse qui vont être analysés en direct par un spécialiste.
Une réponse trop floue, pour être sincère. On perçoit très clairement ici le profil dangereux qui s'en dégage. Marina Foïs, la découpeuse de Boulogne-Billancourt. Une affaire sensible que vous pouvez réécouter en podcast.
Merci Fabrice Drouel, merci beaucoup.
Je les connais toutes les voix de France Inter, vous savez.
C'est vrai. Vous préférez laquelle ?
La vôtre.
Ah ben oui, mais oui.
Et celle de Julia Foïs, que j'aime bien.
Bon, Fabrice Drouel, merci infiniment. À noter également au casting du film L'homme qui ne quitte pas une pièce sans remonter son col en cuir, Christophe Ondelat.
Alors vous êtes plutôt Faites Entrer l'Accusé, plutôt Simone Weber, La Diabolique de Nancy, ou Yves Dandonneau, Le Mort-Vivant. J'ai une passion pour les titres de Faites Entrer l'Accusé.
Je crois que tout m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on élabore le projet. C'est-à-dire que et la naïveté, en fait, parce qu'aujourd'hui, on sait que le crime parfait n'existe pas. Si je vous donne un tips, le crime parfait, c'est un crime sans mobile. Donc, si moi demain je vais tuer quelque part dans le monde quelqu'un que je ne connais pas sans raison, il y a peu de chances qu'on me retrouve. Sinon, on retrouve, je veux dire, avec la police scientifique, c'est impossible. Néanmoins, les gens qui tuent encore aujourd'hui, il y en a, ils élaborent quand même. C'est une solution, souvent, de tuer. C'est censé solutionner quelque chose. Donc, on envisage le monde d'après, quand cette personne-là ne sera plus là. Alors que il n'existera pas, ce monde d'après. Et toute la construction, l'élaboration, le projet, je dois avouer que ça me fascine.
Mais dans Barbac, on frôle le crime parfait, parce que le moyen de se débarrasser du corps est quand même...
Ouais, mais vous voyez bien où il finit, enfin, sans
spoiler et tout,
mais
c'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes qui s'entassent.
Ouais, qu'on ne retrouve pas pour le coup.
C'est tellement rafraîchissant. Moi, ça m'a fait penser à Moki, dans le mauvais esprit.
Oui,
dans cette noirceur
pourrait.
Et dans cette drôlerie, ce truc totalement loufoque, barré, quoi.
Ouais, il y a un truc, il y a un grand écart qui est pas mal, il y a une espèce de pseudo-réalisme quand il traite du couple justement, et en même temps un truc complètement baroque quand il met en scène les crimes et tout ça, c'est ça. En fait, mais même le pitch, il a aucun sens, mais c'est pour ça qu'il est très drôle. Moi, c'est ça qui m'a fait rire, ça n'a aucun sens.
Le Maxi Best Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Et j'en profite pour vous annoncer que Barbac est à goûter en VOD et DVD et recommandé par Pop Pop Pop, tout comme La Fracture qui est également disponible. Retour au direct qui n'est pas en direct, car rappelez-vous, c'est une émission enregistrée pour me permettre d'aller cueillir mes pommes dans mon jardin normand, bien que nous soyons en mai. Je ne suis donc pas venu vous dire que je m'en vais, car je suis déjà parti, mais je suis venu vous dire que c'est le morceau que je vous propose d'écouter. Vous suivez ? Non, mais moi non plus.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là où on est pour rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qui a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret. Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis un peu loin, que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent que ce n'est l'heureux. Des adieux à jamais, je suis heureux. Je te dis que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais.
Et moi, je ne suis pas venu te dire que je m'en vais, car je vous propose de continuer l'histoire avec Lou Garrel. C'est amusant parce que cette image de beau gosse cool vous colle à la peau depuis toujours, mais vous, vous dites, vous avez toujours été un vieux jeune avec des goûts un peu désuets. Je vous cite, même plus jeune, j'écoutais des vieilles chansons de Serge Reggiani, j'allais à la Comédie Française, je ne savais jamais de quoi parler dans les fêtes, j'abordais une fille en lui demandant si elle connaissait les fourberies de Scapin. Alors c'est un vieux jeune ou un jeune vieux qui est en face de moi là aujourd'hui ?
Ma théorie c'est que quand on est jeune, on s'habille toujours avec des habits de vieux. Mmh. Et quand on est vieux, on commence à vouloir s'habiller avec des habits de jeune. Ouais. Vous savez, je commence à vouloir m'habiller avec des habits de jeune. Non, pas du tout, je dis ça en me regardant moi-même, en vous regardant peut-être. Mais je commence à vouloir m'habiller avec des hoodies, avec des sweats à capuche. Mais c'est vrai que je mettais beaucoup de velours à 17 ans.
Ouais, des velours côtelés ?
Ouais, des velours côtelés, des choses qui me donnaient l'air d'être un prof d'histoire géo. Avec un petit bouquin qui dépassait de la poche, de Claude Lévi-Strauss.
Et la petite pipe, hein.
Non, la petite pipe, je l'apprenais pas encore.
Bon. Ensemble, Louis Garrel, nous n'allons pas parler de Scapin, mais de La Croisade, votre troisième long-métrage. Comment se sent le papa?
Moi, je me sens très bien. Après, c'est les spectateurs, j'espère qu'ils seront enchantés.
Oui, bon, d'accord, mais comment vous sentez-vous?
Non, j'ai toujours le trac, surtout en ce moment, on a tous le trac, parce qu'on voit bien que le cinéma, il est un peu has-been. Le théâtre ne l'est pas, bizarre. Le théâtre, le cinéma dit un peu, les films de proposition, pourrait dire, moi, vraiment. Il y a un peu moins de monde en ce moment, donc on est tous un peu le trac, on se dit, putain, merde, est-ce que c'est nous qui avons perdu notre force d'attraction? On est moins charmant, moins mignon,
est-ce que les gens se sont habitués à rester chez eux, à regarder les films sur des tablettes aussi?
Mais ça, je crois pas, je pense que les gens, ils ont envie d'aller au cinéma. Comme quelqu'un me disait très justement, mais les gens, ils ont une cuisine chez eux, ils vont au restaurant quand même. Donc, en fait, le cinéma, les gens, ils ont envie de sortir de chez eux.
Une très bonne démonstration, ça.
Bah ouais, c'est pas mal.
Absolument.
Et du coup, non, on a le trac, comme à la veille d'un, je sais pas, d'un mariage.
Je sais pas. Vous êtes marié?
Moi, je suis marié.
Ah ouais. Vous aviez le trac la veille de votre mariage?
Super le trac, le jour même, ouais.
Et ça s'est bien passé?
Oui, il y avait des Corses, donc ça
va. Il y avait des Corses.
Ouais, c'est ça. Moi non plus, en tout cas.
Ah bah oui, des Corses, évidemment, des Corses. Bon, Louis Garrel, quand je vous vois, je pense à Peter Gabriel. Pour la rime, évidemment, Garrel, Gabriel, mais aussi pour ce côté un peu lunaire. Et ça me donne envie d'écouter cette petite antiquité du Genesis des tout débuts. Écoutez-moi ça.
Through
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Bonjour Charline Roux.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Charline, je vous présente donc Louis Garrel, le réalisateur de La Croisade, un film qui est à découvrir le 22 décembre prochain au cinéma. Charline, pouvez-vous partir en croisade pour nous la résumer, cette croisade justement?
Le film s'ouvre sur Abel qui regagne son domicile pour y retrouver Amour, soit Marianne, sa femme, et Joseph, leur fils. La présence de l'enfant lui semble d'autant plus étonnante que la trottinette du môme n'était pas garée en bas de l'immeuble. Normal, Joseph a vendu la trottinette ainsi que tout un tas d'objets, de préférence précieux, dont il a jugé que ses parents n'en avaient que moyennement besoin. Bye bye les affaires vintage de maman, la petite robe Dior, le vin, les montres de collection. Les parents sont furieux, mais voilà, Joseph a un projet. Et ce n'est pas l'inertie des adultes qui va l'empêcher de mener à bien ce projet avec ses petits copains. Une scène d'engueulade en ouverture, rien de mieux pour révéler les personnages, Louis Garrel.
Oui, ça c'est Jean-Claude Carrière qui m'a dit il faut que les personnages se définissent par ce qu'ils font et non pas par une psychologie préétablie qui devrait s'accorder. Donc là, tout de suite, d'entrée de jeu, on entre. Il n'y a pas de scène d'exposition, ouais. C'est la scène d'exposition, on est déjà dans l'action.
C'est une explosion.
Une exposition, ouais, c'est pas mal.
Un père qui s'appelle Abel, le berger, deuxième fils d'Adam et d'Ève, la mère Marianne, soit la liberté guidant le peuple, l'enfant s'appelle Joseph, le film La Croisade.
C'est vrai que c'est plein de références que je ne maîtrise pas du tout.
C'est une vraie coïncidence ou c'était...
Non, c'est pas maîtrisé. Mais c'est vrai que c'est lourd de sens, je ne les maîtrise pas. Il y a des gens très sincèrement qui viennent me voir pour me demander si tous ces symboles sont, quel sens exactement, je suis bien en peine de leur répondre. Alors je fais semblant parfois, je dis bah bien entendu, Joseph, Abel et Marianne. Enfin,
mais là en l'occurrence sinon, ça marche, vous avez de la chance.
Oui, alors je sais pas si vous le dites probablement.
Et la croisade, eh ben, ça ressemble à ça.
Amour ?
Je suis là, hein. Salut.
Ah bah t'es là, toi ? J'ai pas vu de la trottinette en bas.
Je l'ai vendue.
De quoi ?
En gros, on met tous un peu d'argent et on vend des choses.
Et vous vendez quoi ?
Elle est où, ma robe Dior ?
Quelle robe Dior ?
Mes affaires vintage ? Tu les mettais jamais ?
Non mais attends,
Joseph,
t'as pas touché à mes affaires, Joseph ?
Oh, j'ai juste pris tes chaussures en or et ton blouson ouvert. Pété.
Quoi, Joseph, t'as pas touché à mes montres ?
Oh là là.
Non mais Joseph, c'est quoi ça ? Mais t'es malade, c'est des montres de collection !
Vous êtes combien à avoir fait ça ? On est 850.
N'importe quoi !
Bah si, si.
Mais pour faire quoi ? Ils viennent pour faire quoi ?
Pour sauver la planète, papa.
La croisade sur les écrans le 22 décembre. Alors Louis Garrel, vous évoquiez la mémoire de Jean-Claude Carrière, votre co-scénariste, qui a eu l'idée du film, à savoir une idée d'adulte, hein, l'écologie qu'on met dans la tête d'enfant. Seulement voilà, ouais. Quand l'écrivain vous a proposé cette scène, vous avez trouvé qu'elle sonnait faux. Mais ça, c'était avant de la découvrir, elle.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Comment osez-vous nous tenir en cours ces vieux discours? C'est Greta Thunberg qui est d'ailleurs citée dans le film qu'on aperçoit. Ça a été ça le déclic pour vous?
Ah ouais, quand Jean-Claude m'a parlé du thème du film, la première scène, je la trouvais brillante, super bien écrite, drôle, quasiment qui empruntait au théâtre de boulevard et tout. Et je lui dis, le thème, mon gars, t'es fou, toi, j'y crois pas. C'est bidon. C'est nul, c'est un truc de scénariste, ça n'arrive pas, c'est pas humain. Et les enfants sont pas là obsédés par l'écologie, on pense à autre chose quand on a 12 ans, tout ça. Et il m'a dit que j'étais con. Il m'a dit, t'es con, tu...
Ça démarrait très bien, cette collaboration. Dit,
non, parce qu'on était un peu comme Harold Desmaux, Jean-Claude et moi. Il m'a dit, t'es bête. Et je lui ai dit, bah écoute, propose-le à un autre metteur en scène. Il m'a dit, bah j'en trouverai un autre de metteur en scène. Et puis tout d'un coup, je dis à sa femme, je vais voir sa femme. Je dis, je suis embêté, écoute, excuse-moi, le thème, t'as vu ce qu'il me propose, Jean-Claude? Elle m'a dit, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas possible, c'est pas crédible. 3 mois passent et tout d'un coup, au journal de 20h, je vois cette jeune femme assise en Suède, de 12 ans, qui fait une grève de la faim et qui dit, il y a un problème. On s'occupe pas du truc super important dans le monde, là, c'est l'écologie. Donc j'appelle Jean-Claude, je dis, excuse-moi, t'es un prophète, t'es un sourcier de colombière. On a pris le scénario et j'ai dit, voilà, moi j'ai mis en scène des films qui pourraient être un peu hors du temps, ou je sais pas, qui faisaient référence à un cinéma d'avant. Là j'ai dit, tiens, voilà l'opportunité de faire un film en direct, avec un moment historique qui est un gap générationnel énorme, où des enfants, d'une certaine manière, ont une surpuissance, parce qu'ils ont avec eux 30 000 scientifiques, et qui leur disent... il y a un problème dans 30 ans, donc c'est pour votre pomme. Et donc là, tout d'un coup, ils ont le loisir de nous mettre à l'amende, de nous mettre contre le mur et dire, il y a un truc qui va pas et maintenant il va falloir nous écouter.
Mais alors justement, votre fils de fiction, quand il expose son projet de sauver partiellement le monde, puisque c'est bien de ça hein, dont on parle, eh ben, il manque pas au passage de dénoncer l'inertie absolue des adultes, et particulièrement celle de son père, assez peu préoccupé des enjeux écologiques, et que le môme accuse de lui préparer un avenir bien pourri. Dans La Croisade, vous vous faites copieusement houspiller. Pourquoi est-ce que vous êtes attribué ce rôle-là en particulier ?
Parce que la réalité, c'est que comme je suis pas quelqu'un de militant et qu'il était hors de question, c'est ce que je disais à Jean-Claude, je vais pas faire une leçon de morale, ça m'aurait vraiment embarrassé. J'ai dit, pour que le film soit un plaisir de spectateur, il faut qu'il puisse dialoguer avec moi. Et donc, comme je fais le film, donne-moi le personnage à la hauteur de ma connerie en la matière, c'est-à-dire sur la matière écologique. Donc, on va faire un personnage qui n'y connaît rien et qui se fait mettre à l'amende tout le film, qui est la vérité. Donc, c'est pour ça que je mets. Mais c'est assez agréable de faire des personnages un peu veules, pleutres et un peu ridicules.
Ah, évidemment, c'est les meilleurs.
Exactement, ouais. D'abord. Et puis surtout, il y avait un petit thème à l'intérieur qui, pour le coup, ça, c'est ma petite autocritique. C'est comment est-ce qu'on devient réactionnaire sans vraiment l'avoir vu venir, quoi. Alors, tout d'un coup, mon personnage, il devient un peu réactionnaire. Ça, j'aimais bien.
Et alors, justement, ces enfants dans le film, ils sont déterrés. Hein, comme on dit chez les jeunes, pour déterminer. Mais ils ne sont pas utopistes. Ils ont les réponses aux questions scientifiques. Ils sont organisés comme une ONG. Ils ont même pris soin de régler les questions géopolitiques. C'était important de rendre ce projet en fait réalisable.
Oui, parce que surtout, ce que je me dis, c'est qu'on dit « Ah, les gentils enfants, pensez-vous qu'il faut écouter la jeunesse d'aujourd'hui ?» Mais en fait, ceux qui ont 14 ans aujourd'hui, dans 6 ans, ils ont 20 ans. Donc en fait, c'est fini. C'est juste de prendre, à mon avis, ça c'est comme citoyen, pas comme réalisateur ou acteur, mais de prendre un peu les devants et de se dire « Einstein, à 12 ans, il était super intelligent. Jean Nouvel, il savait déjà faire des trucs à 13 ans. Autant les prendre maintenant pour aller un peu plus vite. Donc déléguons ce qui est possible de déléguer aujourd'hui, et donnons le droit de vote à des gens de 14 ans, faites des assemblées, des envois. Comme ils se sentent menacés, je pense qu'ils développent une imagination. Ils ont plus de ressources que ceux qui sont pas vraiment menacés. Pour le Covid, on a flippé. Vous avez vu, d'un coup, on a des scientifiques, la femme turque, qui ont développé le vaccin. Là, je pense que les enfants, là, de 14 ans, les précoces, les super futés, en ce moment, ils sont en train de réfléchir comme des fous. Donc, il faut se dire, utilisons-les et donnons-leur le pouvoir. Aujourd'hui, à la situation historique quoi.
Le sujet est préoccupant et c'est sur le ton de la comédie que vous avez choisi de le traiter. Il y a par exemple une scène de dîner assez délicieuse avec un couple d'amis clairement climato-sceptiques qui prêtent à rire tant les discours tenus sont aberrants. Est-ce que la comédie reste un bon outil pour ouvrir les consciences à défaut de militer, puisque vous le disiez, vous n'êtes pas militant?
Je pense en tout cas, c'est plus vivable quand on prenait ce thème-là comme film, c'est plus vivable si on le fait sur un ton humoristique. En fait, on peut s'identifier à tous les personnages dans le film, il me semble. On a tous un bout en nous de mon personnage un peu veule, qui regarde ailleurs. Un bout de Joseph, qui est con. C'est-à-dire que une part de notre enfance qui veut changer les choses, qui est toujours là, active, qu'on a de temps en temps un peu endormi avec les contingences matérielles. Et puis un bout de Marianne, qui, elle, est très empathique et très ouverte au changement. Donc en fait, on se balade. Et le ton de la comédie, c'est parce que ça donne une distance respirable, surtout face à ce sujet-là qui est quand même très anxiogène par essence.
Alors on parlait de Jean-Claude Carrière il y a quelques instants, qui nous a malheureusement quitté depuis, et qui vous avait dit « Dépêche-toi de faire ce film, sinon tu vas avoir l'air de courir après le réel, tandis que là tu peux le devancer. Dépêche-toi » Ne seriez-vous pas un peu un diesel, Louis Garrel, même si la métaphore est malheureuse dans le contexte écolo?
Ah bah là, je suis une deux chevaux sans essence, là, carrément. Enfin, là, je suis arrivé pile, là, le film, il est encore d'actualité, mais ce qui est fou, c'est qu'il a commencé il y a 3 ans, quand Jean-Claude a commencé à l'écrire comme une science-fiction. Et là, en l'espace de 2 ans et demi, il est devenu quasiment normal.
Ça s'est accéléré.
Non, mais surtout qu'à un moment donné dans le film, j'avais dit à Jean-Claude, il faut qu'on fasse, en référence, je sais pas si vous voyez, Peter Watkins qui a fait la bombe, qui a simulé une attaque nucléaire dans Londres parce qu'il voulait faire flipper, quoi. J'ai dit, c'est bien, viens, on fait une scène d'alerte aux particules extra-fines. Elle y est. Sauf que tout d'un coup, on tourne la scène, donc on met des sirènes partout, comme si dans Paris résonnait une sirène. Mais le jour même, je vois qu'il va y avoir un confinement, c'est-à-dire ça montait. Donc du coup, on s'arrête de tourner, on fait une pause. Et pendant le confinement, je dis à un copain à moi, vas-y, tu vas me filmer, moi, marchant, dans les rues de Paris, vite, quoi. Emmanuel Macron, dire de prod, c'est vrai, j'ai tout d'un coup des scènes super chères, normalement, pas chères. Je les colle dans le film, elles fonctionnent. Donc il y a une sorte de synchronicité, comme ça, avec avec le monde, qui était assez fou, qui m'a bien plu aussi, parce qu'il y avait un petit côté, une fable comme ça, mais d'actualité.
C'est troublant et inquiétant.
Et un peu inquiétant. Mais je pense qu'il faut pas trop être inquiet. La fable, c'est anti-punk. C'est anti-punk, mais la fable est optimiste. Et je pense, et c'est anti-punk aussi parce que les enfants, c'est l'étape d'après. C'est après les manifestations, ils agissent. Ils agissent pas pour détruire, ils agissent pour construire. Et ça, j'aime bien cette idée-là.
Et cette crise écologique et sanitaire devient au cours du film une crise conjugale. Marianne souligne que l'inertie politique de son mari ne s'applique pas qu'à ce domaine-là. Est-ce que c'est aussi un film sur l'engagement sous toutes ses formes.
C'est un film sur une crise conjugale. Quoi. C'est à un moment donné, la mère est beaucoup plus admirative du fils que du père.
Ouais.
Elle le trouve, elle devient ringard. Donc c'est plutôt un film sur renouvelle-toi sans cesse.
C'est du vécu.
C'est possible que ça soit du vécu, non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis vu dans certaines situations devenir un peu réa, quoi. Je me suis vu. Donc ça, c'est un petit autoportrait acide.
Ah oui, parce que ce personnage d'Abel se soucie plus de sa collection de montres ou de grands creux qui disparaissent de sa cave plutôt que de la couleur des sacs de recyclage.
Non, mais plutôt que d'être ouvert à tout d'un coup une espèce une idée de reconnaître l'ingénuité, l'intelligence en face, tout de suite de dire non, de contrer.
Et justement, c'est un sujet qui vous a fait bouger, vous. Vous étiez un peu Abel au début et vous êtes plus qu'un.
Je me suis un tout petit peu plus. Mais sur l'écologie, pas trop, mais sur d'autres trucs. Avec ma fille de 13 ans, à un moment donné, on a eu des disputes, d'où le film de Spike Lee, pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver un concordat.
Mais ceci dit, votre personnage, quand il est perdu, est très drôle, hein, la scène d'ouverture. Avec... Elles sont où les robes vintage de maman?
Elles sont où les robes vintage de la petite robe dure? Non, mais c'est parce qu'on s'identifie plus à mon personnage, en vrai.
Ouvrez les guillemets, de toute façon, vous les vieux, vous vous en foutez, vous dites que c'est pas pour tout de suite, hein, qu'on a encore le temps d'en profiter. En fait, vous avez jamais pensé à moi. C'est ce que s'entendent asséner les deux parents stupéfaits dans votre film, les parents qui regardent le film aussi peuvent le prendre un peu comme un uppercute, parce qu'on s'inquiète tous pour notre progéniture, mais à plus court terme. Sauf que la dite progéniture a, elle, intégré que l'urgence climatique était précisément du court terme. Alors vous nous dites de ne pas nous inquiéter, mais quand même.
Non, non, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète. Non, je dis qu'il faut... Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, on est devant un océan d'impuissance aussi. On se retrouve à dire, tu tries bien tes déchets, alors tu es là, même là, il y a un truc de cristalline en plastique, je dis, merde, j'ai bu dedans, non, je me retrouve mal maintenant. Donc on est aussi impuissant. Je dis juste un truc, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait la même collaboration mondiale qu'il y a eu pour le Covid. C'est ce que je me suis dit. C'est que tout d'un coup, on est allé au-delà de la crise économique, et puis on a tous peur des deux clamsés. Injectons massivement de l'argent et sauvons-nous de ce bourbier. Il faudrait juste. Mais c'est pour ça que je pense que il faut déléguer maintenant et rajeunir beaucoup les assemblées, parce que il y a qu'eux, en fait, qui auront la volonté et qui pourront passer au-delà de la crise économique.
Donc, Garel, je voudrais qu'on parle de deux choses. Un mot sur la réalisation, parce que vous avez cité le cinéaste soviétique Dziga Vertov, qui avait théorisé la mise en scène en disant, il y a une caméra qui sait ce qui va se passer et une caméra qui ne sait pas. Donc, vous avez dit à votre caméraman, tu sais pas ce qui va se passer, tu vas suivre ça comme un reporter qui découvre ce qu'il filme en même temps qu'il le filme.
Je lui ai dit, tu me fais du Charles Anderlin.
Ouais.
Tu viens d'un format de Charles Anderlin, tu me fais la même chose.
Voilà. Ou il y a un film qui se passe au présent, d'où ce côté très, très immédiat dans le fond et dans la forme.
Ouais, tout de suite. Je lui ai dit, il faut que ça t'arrive à toi, il faut que toi, le caméraman, tu dois être aussi surpris que les deux parents, quoi. Ça doit être vraiment les enfants qui ont fait un coup en douce. C'est pas un coup du metteur en scène. C'est pas moi qui organise le truc. C'est les enfants, tout le monde est surpris de ce qui vient de se passer, parce que c'est assez incroyable ce qui se passe dans le film, puisque c'est, à l'intérieur, si on doit dire une petite forme que le film emprunte, il y a un mini-film d'aventure.
Ouais.
Tu vois, avec le collectif d'enfants qui, tout d'un coup, ont fait une espèce de conspiration à l'abri de tous les regards et la nuit, tu vois, ils se sont réunis.
Voilà. Alors, puisqu'on parle de vos jeunes acteurs, je ne veux pas écorcher son nom, Joseph Engel.
Engel.
Et ben, il dit de vous, Louis Garrel est bon car il a l'esprit critique sur lui-même. Le Louis acteur et réalisateur, c'est la même personne, sauf qu'il est plus strict sur un lieu de tournage parce que c'est son travail et qu'il doit maintenir l'ordre. Mais ça va, il est gentil. Alors, avec cette petite armée de jeunes gens, est-ce que vous avez dû faire plus preuve d'autorité que sur un plateau 100% adulte?
Pas plus d'autorité, mais je leur ai dit, vous vous en foutez de l'écologie, je le vois. À part une fille de la troupe, des acteurs, je dis, je sens bien que c'est pas votre cause. Et c'est pas grave, et tant mieux, c'est pas grave. Mais par contre, j'aurais montré des extraits d'interviews de jeunes gens de leur âge, qui sont très précoces là-dessus. Je dis, je veux que vous me fassiez croire que c'est vous, là. Vous devez avoir le même aplomb, la même intelligence, la même sûreté d'esprit, tout ça. Donc ils ont travaillé et ils y arrivaient. Donc c'est pas tant que j'étais plus difficile avec eux, c'est que comme spectateur, j'ai horreur, j'ai une angoisse d'ailleurs, de faire tourner des enfants, c'est ça l'angoisse dans laquelle ça me met. C'est que dès qu'un enfant, tout d'un coup, on trahit son enfance ou on trahit son adolescence et que ça, il ressemble un peu, il est robotisé un peu, c'est une insulte, quoi. Je sais pas, c'est affreux. Donc moi, ma seule inquiétude, c'était, il faut que je vous enlève rien de vous. C'est-à-dire je veux pas vous enlever votre enfance, ni votre adolescence, ni votre manière de vivre, il faut que ça soit vous, vraiment. Mais par contre, c'est un vous un tout petit peu amélioré, c'est-à-dire, vous êtes des avant-gardistes écologistes, quoi. Voilà.
Le Maxi Best Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Merci Louis Garrel. La Croisade se sera retrouvée en DVD dès le 3 mai prochain. Vous le savez, Pop, depuis presque 1000 émissions, c'est du pop, des pop, de la pop. Et je parle de pop musique, bien sûr. Le reste, je continue de chercher ce que cela signifie. Mais bref, l'important étant pour moi de prendre soin de vos oreilles. Et je le prouve à nouveau avec ce morceau, Papa Power, de Cat Power, dans Pop. Enfin, si vos oreilles ont survécu à ce lancement tout stillon. Papa Power, c'était Cat Power, mais c'était sur ce son que s'achève ce maxi best pop de Pop sur France Inter. Demain, je vous propose de rembobiner les Pop de Valérie Donzelli et de Wilfried Lupano. À demain. Juste après les infos, rendez-vous avec toute l'équipe de Par Jupiter, emmenée par Charline Vanhoenacker.
Chez Vérissure, en plus de vous protéger des cambriolages, nos alarmes sont équipées d'un bouton SOS.
Au fait, t'as des nouvelles de la maman de Bertrand ?
Oui, ça va, mais ça fait sacrément peur avec cette chute.
Mais comment elle a fait pour prévenir les secours ?
Elle a appuyé sur le bouton SOS de l'alarme Vérissure et c'est eux qui les ont prévenus.
Rendez-vous sur Vérissure.fr pour commencer votre devis en moins d'une minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure.
Allô ? Oui, entendu. Tout sera prêt pour la rentrée. On va faire ce qu'il faut.
L'entreprise de BTP de Marc doit rénover les routes autour des écoles de sa commune. Et pour ça, il a besoin d'une équipe en béton. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité.
J'ai besoin d'Indeed.
Les questions de présélection d'Indeed vous permettent d'affiner votre recherche de candidats et de consulter les candidatures qui correspondent le plus à votre recherche. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
La paire. Ce que Léo aime dans sa nouvelle salle de bain, c'est l'ambiance Dolce Vita. La douche à l'italienne, le carrelage terrazzo,
très chic,
et un air d'opéra.
Ah là là.
Avec la paire, Chaque détail compte pour être bien chez soi. Les La Périade se prolongent. Jusqu'au 2 mai, profitez de 150 euros de remise immédiate tous les 1000 euros d'achat sur votre projet salle de bain. La Paire, cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet.